Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du vendredi 14 octobre 2016. Au sommaire ce soir...
Le Burkina va reprendre des terrains illégalement attribués à des proches du président déchu, Blaise Compaoré.
Un conflit en Syrie, les quartiers rebelles d'Alep sous les bombardements du régime et de son allié russe.
En magazine, retour sur la libération jeudi d'une vingtaine des collégiennes nigérianes enlevées en 2014 par Boko Haram.
L'économie et les sports, juste après le journal.
L'Assemblée nationale du Burkina Faso a adopté à l'unanimité un projet de loi visant à reprendre plus de 105 000 parcelles de terrain illégalement attribuées entre 1995 et 2015 à des dignitaires du régime du président déchu Blaise Compaoré. C'est ce qu'on a appris ce vendredi. Le point avec Nani Talani.
La loi sur le retrait de ces parcelles a été adoptée hier par les 108 députés présents sur 127 lors d'une plénière à huis clos. Elle fait suite à une enquête parlementaire sur le foncier urbain réalisé dans 15 des 360 communes que compte le pays. Parmi les 105 000 parcelles illégalement occupées figurent plus de 88 000 parcelles illégalement attribuées à trois sociétés immobilières appartenant à Alizeta Ouédraogo, la belle-mère de François Compaoré, frère cadet du président déchu Blaise Compaoré, a expliqué le président de la commission d'enquête Bourema Barry. On y compte également 248 parcelles attribuées à Ouaga 2000, quartier huppé de la capitale, sur instruction verbale du président Blaise Compaoré. Il y a aussi 113 parcelles octroyées au président Compaoré dans la commune de Zignaré, sa ville natale, et 22 parcelles attribuées à son frère François Compaoré dans la même localité. La commission a en outre recommandé le retrait des 14 parcelles d'habitation et de la réserve administrative octroyées à la Fondation Souka, appartenant à l'ex-première dame du Faso, Chantal Compaoré, ainsi que le retrait d'une vingtaine de réserves que se sont partagées des maires de communes.
Côte d'Ivoire, l'opposition appelle au boycottage du référendum sur la Constitution prévu le 30 octobre. C'est ce qu'a lancé Pascal Affine-Guessant, le président du Front populaire ivoirien, le FPI, fondé par l'ancien président Laurent Gbagbo. Pascal Affine-Guessant s'exprimait au nom de l'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire, AFDCI.
Déclaration très controversée de Muhammadu Buhari aujourd'hui. Le président du Nigeria a répondu ce vendredi aux critiques de son épouse sur son gouvernement en estimant que sa place était à la cuisine. Dans un entretien accordé à la BBC, Aïcha Buhari avait menacé de ne pas soutenir la réélection de son mari en 2019.
I don't know which party my wife belongs to, but she belongs to my kitchen.
Je ne sais pas à quelle partie ma femme appartient, mais sa place est dans ma cuisine. Mon salon est dans l'autre chambre. Ce n'est pas facile de se débarrasser de l'opposition ou des gens qui ne vous ont pas suivi tout le long de votre campagne électorale. Je souhaite que ma femme se souvienne que je suis dans le domaine depuis 12 ans.
Une réponse que beaucoup considèrent choquante, d'autant plus qu'elle a été prononcée en présence de la chancelière allemande Angela Merkel. Dans un entretien à la BBC, Madame Buhari a laissé entendre que de hauts responsables nommés par son mari n'avaient pas de mission, de vision de ce qu'il faut faire pour le Nigeria. La première dame a ajouté que le président ne connaît que 5 personnes parmi les 50 qu'il a nommées dans le gouvernement. Si ça continue comme ça, je ne ferai pas partie d'un mouvement pour sa réélection, a-t-elle menacé. Le président a longtemps été critiqué pour sa politique économique, le pays ayant plongé dans la récession fin août, après 2 trimestres consécutifs de croissance négative.
Saloua Jafari.
Tous les policiers de la ville de Katioula, dans le centre nord de la Côte d'Ivoire, ont été mutés et de nouveaux policiers ainsi qu'un nouveau commissaire de police ont pris leurs fonctions. C'est 2 semaines après des émeutes survenues après une bavure policière.
Le Burundi cherche à cacher ses crimes, accuse des ONG. Plusieurs ONG de défense des droits de l'homme ont déploré ce vendredi le vote du Parlement burundais en faveur du retrait de la Cour pénale internationale, en avertissant que le gouvernement de Bujumbura tentait ainsi de dissimuler au monde des violations des droits de l'homme.
République démocratique du Congo, les 28 pays de l'Union européenne demanderont officiellement à Kinshasa d'organiser des élections en 2017. C'est ce qu'apprend l'AFP de sources diplomatiques. À l'occasion d'une réunion à Luxembourg, les ministres des Affaires étrangères des 28 États membres vont donc demander à Federica Mogherini, chef de la diplomatie de l'Union européenne, de commencer à identifier les différentes personnalités qui seraient opposées à la tenue d'élections en vue de possibles sanctions. Aucune cible n'a été citée, mais la source de l'AFP a tout de même évoqué des gens autour du président Joseph Kabila.
Au Sénégal, un frère du président Macky Sall a annoncé sa démission de son poste d'administrateur d'une société pétrolière. Timiss Corporation est en contrat avec l'État pour exploiter des gisements de gaz. Mesure prise suite à des critiques de l'opposition. Aliou Sall dénonce une campagne de diabolisation à son encontre.
La sous-nutrition des enfants au Tchad coûte cher à l'État en termes de santé, de scolarité et de faible productivité. Une étude du Programme alimentaire mondial indique qu'environ 575 825 milliards de francs CFA ont été perdus au cours de l'année 2012 en raison de la sous-nutrition chez l'enfant. Ceci correspond à 9,5% du PIB en 2012.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, la Russie, qui intervient militairement en Syrie en appui au régime du président Bachar al-Assad depuis plus d'un an, continue de renforcer sa présence militaire et son arsenal dans le pays pour mener des raids aériens, notamment à Alep, la deuxième ville de Syrie, malgré les critiques des Occidentaux qui l'accusent de participer à des crimes de guerre. Aujourd'hui, les secouristes travaillaient sans relâche à Alep, ville soumise au bombardement du régime et de son allié russe, et ce, à la veille d'une réunion internationale en Suisse pour tenter de mettre fin au Bensan, Arzuma Compaoré.
Pour la troisième semaine consécutive, des frappes aériennes très intenses ont visé plusieurs quartiers d'Alep Est, le secteur aux mains des rebelles, dans la nuit et la matinée, a indiqué à l'AFP Rami Abdelrahman, directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui n'était pas en mesure de donner un bilan de mort dans l'immédiat. Vendredi, le Kremlin a annoncé la ratification par le président Vladimir Poutine d'un accord entre Damas et Moscou sur le déploiement pour une durée indéterminée des forces aériennes russes sur l'aérodrome militaire de Maymim. Au plan diplomatique, les États-Unis et la Russie, qui avaient suspendu depuis octobre leur dialogue sur la Russie, ont annoncé deux réunions internationales avec des puissances arabes et européennes, la première samedi à Lausanne et la seconde dimanche à Londres. La rencontre à Lausanne entre les chefs de la diplomatie russe et américaine, Sergei Lavrov et John Kerry, devrait inclure la Turquie, l'Arabie Saoudite et peut-être le Qatar, parrains régionaux de l'opposition armée au régime de Bachar al-Assad.
La Grande-Bretagne entend proposer au Conseil de sécurité un projet de résolution réclamant une trêve immédiate dans la guerre au Yémen. Les précisions de Lionel Gaïma.
Cette semaine, les 15 pays membres du Conseil de sécurité ne sont pas parvenus à s'entendre sur une déclaration condamnant le raid aérien du 8 octobre qui avait tué quelques 140 personnes au Yémen. Jugeant le projet de déclaration trop vague, la Russie s'y était opposée, entraînant son échec étant donné que les déclarations du Conseil ne peuvent être adoptées que par consensus. Déplorant l'échec de cette initiative, l'ambassadeur britannique à l'ONU, Matthew Rycroft, a dit à la presse que son pays va bientôt faire circuler un projet de résolution appelant à une cessation immédiate des hostilités et une reprise du processus politique au Yémen. Sur le terrain, la coalition menée par l'Arabie Saoudite continue de combattre les rebelles Houthis pour tenter de ramener au pouvoir le président internationalement reconnu du Yémen, Abd Rabbu Mansour Hadi. Les autorités saoudiennes accusent l'Iran de soutenir les rebelles, accusation que rejette Téhéran. La guerre s'est intensifiée au Yémen depuis l'échec au mois d'août des pourparlers de paix menés sous l'égide de l'ONU au Koweït.
Le vice-président de la Commission européenne a estimé aujourd'hui qu'un Brexit allégé était encore possible si le Royaume-Uni respecte certaines conditions. Valdis Dombrovskis a fait cette déclaration à l'AFP au lendemain de l'avertissement formulé par le président du Conseil européen Donald Tusk, pour qui la seule alternative à un Brexit dur est « pas de Brexit du tout ». Un porte-parole de la Commission européenne a souligné que M. Dombrovskis s'exprimait en son nom propre sur ce sujet et qu'il ne s'agit pas de la position de la Commission. La semaine dernière, le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, avait déclaré qu'il fallait être intransigeant avec Londres.
En Turquie, les arrestations se poursuivent 3 mois après le coup d'État manqué contre le président Recep Tayyip Erdogan. Certains observateurs se demandent pourquoi cette campagne de répression n'a pas atteint le parti AKP au pouvoir, d'autant que le cerveau présumé du putsch, Fethullah Gulen, entretenait autrefois des liens étroits avec le parti et le chef de l'État. Ce vendredi, la justice a publié des mandats d'arrêt contre 189 juges et procureurs. En tout, plus de 30 000 personnes ont été arrêtées depuis la mi-juillet. La plupart sont des militaires, des éducateurs et des membres de l'appareil judiciaire.
En Afghanistan, un porte-parole de la coalition militaire étrangère dirigée par les États-Unis se dit préoccupé par le nombre de victimes des forces de sécurité afghanes dans les récents combats avec les talibans. Selon les autorités locales, plus de 100 membres du secteur de la défense et de la force de sécurité nationale sont morts au cours des 2 dernières semaines en protégeant la ville méridionale de Lashkar-Gah. Des dizaines d'autres ont été blessés. Les talibans ont multiplié leurs attaques dans la province de Helmand, où le gouvernement afghan a le contrôle total de seulement 2 des 14 districts.
Ici aux États-Unis, la candidate démocrate Hillary Clinton semble prendre une pause, ne prévoyant aucun meeting pour les prochains jours, alors que son rival républicain est assailli de toutes parts pour des présumés abus sexuels datant d'il y a 10 ans ou voire même 30 ans. Aujourd'hui, le président Barack Obama a fustigé Donald Trump lors d'un discours dans l'Ohio, un état clé et dans le scrutin du 8 novembre.
Et la chancelière allemande.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
Place à la page économique avec John Linden.
La production de phosphate a repris à Medlaoui en Tunisie après un nouveau blocage dû à un mouvement social provoqué par des diplômés chômeurs qui revendiquaient des emplois. En 5 ans, la production de phosphate a chuté de 60%, une baisse coûtant à la Tunisie environ 2 milliards d'euros. Le Fonds monétaire international FMI et la Côte d'Ivoire sont parvenus à un accord préalable en vue d'un programme économique de 674 millions de dollars sur 3 ans. Cet accord devra encore être soumis à l'examen du conseil d'administration du FMI en décembre prochain. Mais d'après le magazine Jeune Afrique, le programme soutiendra les principaux objectifs du PND, le Plan national de développement de la Côte d'Ivoire, pour la période 2016-2020 et dans lequel l'État ivoirien entend investir plus de 29 000 milliards de francs CFA au cours des 5 prochaines années. En Mauritanie, le gouvernement et Kosmos Énergie Mauritanie ont signé un contrat d'exploration-production de pétrole en offshore, a annoncé dans un communiqué le ministère mauritanien du pétrole. Le pays, qui a rejoint le club de producteurs de pétrole en 2006, a vu sa production se stabiliser à 8 000 barils par jour, réalisant des entrées en devises de près de 12 millions de dollars pour l'État mauritanien en 2015.
Sur les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
Vers une Coupe du Monde de football 2016 à 40 ou 48 pays?
Le nouveau format de la Coupe du Monde 2026, qui pourrait être élargi à 40 ou 48 équipes, sera décidé lors de la prochaine réunion du Conseil de la FIFA. C'est le gouvernement du football mondial. Elle aura lieu les 9 et 10 janvier prochains. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, avait rappelé jeudi qu'il était favorable à un mondial à 48 équipes et à une organisation conjointe par plusieurs pays. Selon le nouveau format 48 que Giovanni Infantino prône, les 16 sélections victorieuses de leur groupe éliminatoire seraient directement qualifiées pour le mondial. 32 équipes viendraient sur les lieux de la Coupe du Monde pour y disputer un barrage et les 16 vainqueurs rejoindraient le tournoi final. L'UEFA, par la voix de son président Alexander Seferin, a assuré qu'elle n'était pas opposée à ce nouveau format élargi, selon une autre source. Alors que la procédure d'attribution n'a pas encore été lancée, une candidature conjointe des États-Unis et du Canada et une autre de l'Argentine et de l'Uruguay sont évoquées pour l'édition 2026.
Tennis, Djokovic en demi-finale du Masters de Shanghai.
Le Serbe a peiné pour écarter le modeste mais valeureux joueur allemand Micha Zverev, 110e joueur mondial, en 3 manches, 3-6, 7-6, 6-3. Djokovic affrontera l'Espagnol Roberto Bautista, vainqueur de Joe Wilfried Tsonga, avant de peut-être retrouver son dauphin Andy Murray en finale dimanche. Quant à Gilles Simon, il s'est qualifié pour les demi-finales de ce Masters en dominant l'Américain Jack Sock, 25e joueur mondial, en 3-7, 4-6, 6-4, 7-6. Simon affrontera Andy Murray pour une place en finale.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgan Guiriec et Gaby Dorcy dans votre compagnie, place au dossier du jour, au premier escale, le Nigeria.
C'est la joie dans les familles des 21 collégiennes de Chibok, otages des islamistes de Boko Haram, dont la libération a été annoncée jeudi par les autorités. Selon les informations initiales, elles ont été libérées contre 4 militants emprisonnés de Boko Haram. Des informations démenties ce vendredi par le vice-président du Nigeria. Pour en savoir davantage, Timothée Donangmaï a joint le professeur Ali Buhari de l'Université d'État de Nassarawa à Kefi.
Aujourd'hui, les vice-président du Nigeria, le professeur Osibanjo, a déclaré dans un discours télévisé que le gouvernement n'a libéré aucun membre des groupes Boko Haram à l'échelle de ces 21 filles.
Alors, est-ce qu'il a expliqué comment ces filles ont-elles été libérées?
D'après le professeur Osibanjo, qui est le vice-président du Nigeria, il a salué les efforts de la communauté internationale, notamment la CISR, pour obtenir la libération de ces 21 filles. Mais en ce qui concerne les échanges du personnel de Boko Haram pour obtenir la libération de ces 21 filles, il a catégoriquement nié ces rumeurs qui circulent partout dans le monde entier.
Comment le Nigeria compte-t-il s'y prendre pour obtenir la libération de cette centaine de collégiennes qui restent aux mains de Boko Haram?
D'après le vice-président du Nigeria, le gouvernement a surpris tout le monde en obtenant la libération de ces 21 filles parce que, selon le vice-président, le gouvernement déploie une diplomatie silencieuse. Le gouvernement ne veut pas aller ici et là pour crier que nous faisons des efforts pour obtenir la libération de ces filles, mais il déploie des efforts sous-attendus pour obtenir la libération de ces Chibok Girls qui sont toujours détenues en otage.
Qu'en est-il de la lutte contre le groupe militant Boko Haram? Où en est le gouvernement?
Il y a une semaine, les groupes islamistes de Boko Haram ont, comme d'habitude, commis des attentats dans l'état de Borno, où il y avait quelques morts, mais en généralement parlant, les groupes n'existent presque pas parce que le gouvernement a pu démoraliser leur capacité de mener des attaques de grande envergure sur toute l'étendue du territoire nigérian.
On écoutait le professeur Ali Buhari de l'Université d'État de Nassarawa à Kefi, au Nigeria.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
La journée mondiale de la femme rurale, c'est demain. L'occasion de célébrer celle qui contribue à la production de près de 80% de la nourriture consommée dans les pays subsahariens. Au Cameroun, les femmes rurales se sont constituées en groupe d'initiatives communs afin de mieux gérer les difficultés rencontrées au quotidien. Moki Edwin Kinzeka est parti à leur rencontre.
C'est sur le rythme des chants que ces femmes de Matom, une localité située dans la région du centre du Cameroun, vaquent à leurs occupations champêtres. Leur présidente, Onana Diane, explique le fonctionnement de ces groupes d'initiatives communes.
L'inscription, c'est 5 000 et la part sociale, 10 000. Ce qui fait qu'on peut louer la machine, on peut louer le conducteur pour labourer le champ. Et quand on laboure comme ça, nous tous, on part travailler. Et quand il faut sacler, on part sacler. Donc, on travaille toujours en groupe.
Les femmes camerounaises contribuent près de 80% de la nourriture consommée dans les régions. D'après Onana Diane, ces denrées deviennent inconsommables parce qu'elles ne possèdent pas d'équipement de conservation.
Pour le moment, on vend la patate et l'igname au marché, mais c'est le manioc. On attend, on nous a promis qu'on devrait nous donner les machines pour la transformation. Bon, pour le moment, on vend rien que les boutures qu'on est en train de vendre.
Les autorités camerounaises ont effectué des visites auprès des femmes rurales dans le but de les encourager. La présidente du groupe des femmes rurales des Ouattélé, Bodo Alice, confie qu'elle se sent honorée parce que les efforts fournis pour approvisionner les Camerounais sont reconnus.
Nous faisons le manioc amélioré, comme le gouvernement a dit, pour émerger en 2035. Et nous sommes dans la joie parce que Madame le ministre est venue avec toute la délégation voir ce que la femme Bachenga est en train de faire.
Elle ajoute par ailleurs qu'elle attend beaucoup du gouvernement.
Comme ils ont vu la route pour arriver même au champ, c'était pénible. Nous voulons des pick-up pour aller au champ et des tracteurs, puisque nous avons tellement de terrain.
Le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abena-Ondua, promet que le gouvernement va leur octroyer l'assistance dont elles ont besoin.
L'un de ces grands chantiers concerne le programme d'appui au secteur des transports phase 1, aménagement de la route Bachenga-Ntui-Yoko-Lena, qui prend en compte la problématique de la croissance inclusive par la mise en œuvre des activités connexes spécifiques au profit des femmes et des jeunes le long du dit axe routier.
Les femmes rurales au Cameroun rencontrent, entre autres, des difficultés comme l'accès aux terres, des pratiques traditionnelles qui ralentissent leur émancipation, l'analphabétisme et la pauvreté. Moki Edwin Kinzeka pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Une semaine après le passage de l'ouragan Matthew en Haïti, la situation est toujours extrêmement difficile sur le tiers d'île. La colère monte chez certains habitants des zones isolées. Plusieurs convois humanitaires ont été bloqués ou pillés. D'autre part, l'ouragan Matthew a détruit beaucoup de plantations et plus de 750 000 personnes ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence, selon les estimations encore partielles du Programme alimentaire mondial. Pour un point sur la situation, Claire Morin-Gibourg a joint l'ancien journaliste et responsable du parti Unir, Clarence Renoy.
On découvre au fil des jours que le nombre de victimes de cet ouragan en Haïti augmente. On est passé d'une centaine de morts aujourd'hui à près de 500 morts. Et il y a une population de 1,5 million d'habitants qui se trouve aujourd'hui en situation d'urgence humanitaire, dans le besoin urgent. Et aussi, on découvre l'horreur, je dirais, de cette catastrophe qui a détruit vraiment beaucoup de villes dans le pays. À côté des pertes en vies humaines, il y a aussi des pertes colossales qui ont été enregistrées par rapport aux villes qui sont détruites, 4 départements qui sont touchés particulièrement. Ce qui fait que aujourd'hui Haïti est dans une situation pire que celle que le pays a connue après le séisme de 2010.
La colère gronde également chez les habitants des zones isolées. Des convois humanitaires auraient été pillés. Est-ce que vous nous le confirmez ?
Oui, effectivement, c'est confirmé. Parce que, vous savez, l'aide humanitaire qui arrive et les volontaires qui distribuent l'aide ont tendance malheureusement à se diriger vers les grandes villes qui sont touchées. Mais à l'extérieur de ces grandes villes, il y a des petites régions isolées qui n'ont rien et qui ont tout perdu aussi. Ça, déjà, c'est un problème dans la distribution de l'aide. Mais à côté de ça, il y a le pays tout entier. C'est un pays qui vivait déjà dans une situation économique particulièrement difficile. Il faut le rappeler, malheureusement, de temps en temps, que Haïti est le pays le plus pauvre du continent américain. Donc, ce qui fait que quand les gens voient passer des convois d'aide alimentaire qui vont être distribués dans d'autres régions sinistrées, eux-mêmes, ils se demandent, mais et nous, est-ce qu'on nous oublie ? Et parfois, les gens donc attaquent effectivement les convois humanitaires qui passent parce que eux aussi, ils sont dans le besoin.
Alors, il y avait déjà 3,2 millions de personnes qui vivaient en insécurité alimentaire avant l'ouragan Matthew. Comment faire face à ces risques de famine ?
Non, mais c'est clair qu'il y a une crise humanitaire. Haïti doit faire face à cette crise humanitaire parce que, au-delà de la situation qui était déjà celle d'Haïti avec 3,2 millions de personnes qui faisaient face à ce problème de famine, aujourd'hui, il faut ajouter près de 2 millions qui sont dans 4 nouveaux départements touchés par l'ouragan, ce qui fait que plus de la moitié de la population aujourd'hui ferait face à ce problème en urgence. Donc, il y a une crise humanitaire qui se pointe là et qui nécessite vraiment une coordination de l'aide internationale qui arrive. Beaucoup de pays sont sur place aujourd'hui à côté d'Haïti pour aider, mais il faut bien coordonner cette aide. Il faut éviter aussi qu'il y ait de la corruption dans la distribution de cette aide pour que sur cette crise humanitaire, il n'y a pas une crise sociale qui vienne s'ajouter.
Le journaliste et homme politique haïtien Clarence Renoir.
Présidentielle américaine, Donald Trump, accusé d'agression sexuelle, se dit victime de ce qu'il qualifie de mensonge éhonté, colporté par des médias à la solde de sa rivale démocrate, tandis que le couple Obama a exprimé son dégoût face à des propos intolérables sur les femmes. Jacques Aristide.
Dans un discours passionné, la première dame a déclaré que quel que soit le parti auquel on appartient, démocrate, républicain ou indépendant, aucune femme ne mérite d'être traitée de cette façon. Michelle Obama faisait allusion aux propos vulgaires et dégradants sur les femmes que le milliardaire a proféré en 2005. L'épouse du président américain s'est dite glacée jusqu'à la moelle par l'attitude effrayante de Donald Trump envers les femmes. Elle s'exprimait au lendemain de la publication par le New York Times des témoignages de deux femmes qui ont relaté avoir été victimes de gestes du milliardaire susceptibles de tomber sous le coup de la loi, sans compter d'autres témoignages de femmes disant avoir été victime de sa part de harcèlement et d'agressions sexuelles. Pour Barack Obama, il est temps pour chacun d'entre nous de se lever et de dire « ça suffit ». Il intervenait lors d'une réunion publique de soutien à Hillary Clinton dans le New Hampshire. « Cela doit cesser maintenant », encore dit le locataire de la Maison-Blanche.
Jacques, le mania de l'immobilier qui n'a jamais été autant en difficulté dans sa course à la Maison-Blanche a réagi hier soir aux dernières révélations.
Oui, s'adressant à des jeunes à Columbus dans l'Ohio, Donald Trump a déclaré qu'il s'agissait d'accusations vicieuses, totalement et absolument fausses, avant d'ajouter que ces attaques sont orchestrées par les époux Clinton et leurs alliés dans les médias. Je n'ai jamais rencontré ces personnes, je ne sais même pas qui elles sont. Ce sont des histoires inventées de toutes pièces avant l'élection, a-t-il affirmé. Ses avocats ont exigé que le New York Times retire à son article infondé et diffamatoire qu'il juge destiné à pousser à l'échec la candidature de M. Trump. Le quotidien new-yorkais a refusé, estimant que le candidat avait entaché lui-même sa réputation. Pour sa part, Melania Trump, l'épouse du candidat républicain, a menacé d'engager des poursuites judiciaires contre la revue People Magazine et une ancienne journaliste pour des propos faux et complètement inventés. Madame Trump a réfuté avoir rencontré ou conversé avec la journaliste Natasha Stoyanov, qui allègue que Donald Trump l'a forcé à un baiser lors d'une interview. Les nouvelles accusations ont à nouveau emballé la machine médiatique avec un effet dévastateur, augmenté par la répétition des faits allégués. Les responsables républicains avancent désormais en ordre dispersé derrière leurs candidats. Nombre d'entre eux ont définitivement perdu l'espoir de le voir à la Maison-Blanche. Et toujours, selon le New York Times, certains des plus importants donateurs du Parti républicain ont appelé hier à lâcher Donald Trump. En face, la candidate démocrate Hillary Clinton, martelant que barrer la route à son rival est un devoir moral, en profite pour engranger les soutiens des journaux aux quatre coins du pays. Le dernier en date étant le Washington Post.
C'est la fin de cette édition. Nous remercions Georges Léonard Sagnot qui a dirigé la mise en onde ce soir avec l'assistance de Mme Abdelrahman à la console, présentation Morgane Guiriec et Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute de VOA Afrique. On continue la conversation sur Facebook avec nos près de 2 millions de fans. Et oui, et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.